franceinter.fr.
Et donc à la une de la science aujourd'hui, les inégalités sociales qui impactent la santé des plus jeunes. Une grande enquête réalisée par le ministère de la Santé sur les élèves de grandes sections de maternelle montre donc que les enfants de cadres sont globalement en meilleure santé que les filles et fils d'ouvriers ou d'agriculteurs. Thibaut de Saint-Paul, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes chef du bureau État de Santé à l'Adres et co-auteur donc de cette enquête. Également avec nous par téléphone Thierry Lang, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'épidémiologie et responsable du groupe Inégalité sociale de santé au Conseil de santé publique. Thibaut de Saint-Paul, donc cette enquête a été menée entre 2012 et 2013 sur presque 20 000 élèves de maternelle partout en France. Et donc ces inégalités sociales influencent la santé de ces enfants, c'est très clair.
Tout à fait. Le premier constat est quand même positif. On observe que l'état de santé des enfants de 6 ans est globalement bonne et que, par exemple, l'obésité et le surpoids se sont stabilisés aujourd'hui en France. Toutefois, ce constat positif, il cache de fortes inégalités sociales.
Ouais.
Aujourd'hui, vous avez 7% des enfants de cadres qui sont en surpoids ou obèses contre 16% chez les ouvriers. Et si vous prenez l'obésité seule, 1% des enfants de cadres et vous avez 6% des enfants d'ouvriers, ce qui est un écart considérable.
Vous avez également étudié les caries, qui sont des bons indicateurs aussi.
Tout à fait, la santé bucco-dentaire est aussi un marqueur fort des inégalités sociales. Et vous avez 6 fois plus de caries non soignées dans la bouche des petits-enfants d'ouvriers par rapport aux cadres.
Ouais.
Donc 24% des enfants d'ouvriers ont des caries non soignées, ce qui est énorme.
Vous êtes intéressé à l'alimentation aussi et aux boissons sucrées en particulier ?
Tout à fait. Derrière ces inégalités sociales, on voit apparaître aussi des différences de pratiques qui vont toucher aussi bien la consommation de fruits et légumes, de boissons sucrées, et là encore, de grandes différences entre enfants de cadres et d'ouvriers dès l'âge de 6 ans.
Énorme différence. Les enfants d'ouvriers sont 31% à consommer quotidiennement des boissons sucrées contre 8% des enfants de cadres. Voilà
tout
ce que montre cette enquête. Thierry Lang, ces inégalités de santé sont fortement marquées donc dès l'âge de 6 ans. C'est quelque chose qui vous étonne ou pas ?
Alors, c'est pas quelque chose qui nous étonne. Je crois d'abord qu'il faut saluer cette enquête de vaste ampleur et qui nous permet d'avoir un suivi de l'évolution des inégalités sociales de santé avec le temps, ce qui est finalement des informations qui sont assez rares. Donc elle est très précieuse. Ce que disait Thibaut de Saint-Paul à l'instant, en fait, c'est le reflet de ce qu'on observe assez généralement sur les inégalités sociales de santé dans notre pays. C'est-à-dire que, d'abord, je rappelle que quand même les inégalités sociales de santé sont en France parmi les plus élevées d'Europe occidentale, ce qui est quand même une vraie préoccupation qu'on doit avoir.
Et vous l'expliquez comment ?
Alors, précisément, l'intérêt de l'enquête et d'attirer l'attention sur le fait que on a déjà aujourd'hui des inégalités sociales de santé importantes et que celles qu'on observe malheureusement à l'âge de 6 ans aujourd'hui préfigurent ce qui va se passer demain. Donc elles sont vraiment essentielles à prendre en charge, enfin à affronter. Malheureusement les causes et les mécanismes explicatifs sont extrêmement complexes, surtout multiples. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir trouver une explication simple sur laquelle on va pouvoir monter un nouveau programme qui va réduire ces inégalités. Ce qu'on appelle les déterminants, les causes, si on veut, sont à la fois évidemment dans le système de santé, mais aussi dans les campagnes de prévention, mais aussi dans l'organisation de notre société, c'est-à-dire l'organisation socio-économique, l'habitat, l'éducation nationale, etc. Donc on a un vaste ensemble de causes sur lesquelles il faut agir et il faut se poser la question de savoir comment nos programmes et comment nos politiques affectent les inégalités sociales de santé.
Thibaut de Saint-Paul, quel pourrait être le rôle de l'école dans ces tentatives de gommer les inégalités ?
On voit, comme le disait Thierry Lang à l'instant, que ces inégalités sociales de santé, elles rejoignent d'autres inégalités sociales, de logement, économique, culturel. Et l'école, c'est un des endroits où on peut agir sur les comportements, sur les représentations, notamment des plus défavorisés. Il y a sans doute quelque chose qui joue au travers de l'alimentation à la cantine, par exemple. Et on voit aussi que, c'est aussi pour ça que ces enquêtes sont importantes, on voit que ça se joue dès le plus jeune âge, dès l'âge de 6 ans, et que donc c'est des inégalités qui vont se poursuivre tout au long de la vie. Et donc il y a une action à faire dès ce plus jeune âge pour essayer d'agir. C'est un des leviers possibles.
Et comment on fait justement, Thierry Lang, pour essayer de gommer ces écarts, à l'école en particulier, bien sûr?
Alors, je crois qu'il faut dire que l'école a une responsabilité, mais elle n'est pas chargée de gommer les inégalités sociales de santé, hein, quand leurs origines à l'extérieur. Je crois que c'est vraiment important, c'est de noter que on voit là le poids d'inégalités sociales générales, donc qui renvoie d'une part au gradient, enfin aux différences d'obésité qu'on a chez les adultes, donc chez les parents, que ces différences d'obésité, de répartition de la surcharge pondérale chez les adultes, elles ont des causes qui sont collectives, donc bien sûr il faut informer, bien sûr il faut faire de l'éducation pour la santé, mais il y a des causes collectives, et l'alimentation elle est à base culturelle, bien entendu, elle dépend aussi des prix, elle dépend de la disponibilité des aliments, donc on a une vraie complexité, et l'école là accompagne, si vous voulez, hein, à réduire ces inégalités sociales de santé. Et je pense que 6 ans, c'est déjà le fruit d'une longue histoire dans le développement de la santé d'un enfant. Hein. Ça commence dès les premiers mois. Le goût se forme aussi dès les toutes premières années, même bien avant 6 ans. Un enfant, d'une certaine façon, il va refléter les conditions de vie de ses parents. Il y a responsabilité partagée.
Hein. Il reste peu de temps, Thibaut de Saint-Paul. C'est important. Une dernière question par rapport au vaccin. Le vaccin des enfants de familles modestes a progressé entre 2006 et 2013. Ça, c'est une information complètement différente.
Alors tout à fait, cette enquête, elle fait apparaître qu'il y a un domaine dans lequel les enfants de milieux plus défavorisés sont justement dans une situation qui est plus favorable à la santé, c'est la vaccination, avec des taux de vaccination, par exemple, pour l'hépatite B qui sont plus élevés. Et c'est lié notamment à l'investissement des PMI dans ces territoires, mais aussi à l'acceptation des vaccins qui est un peu moindre dans les milieux favorisés.
Et ce, malgré les campagnes très hostiles, hein, contre la vaccination depuis quelques temps. Hein.
Tout à fait. Et donc c'est intéressant, ces disparités entre milieux sociaux, ils jouent dans les deux sens. Et la vaccination, là, on a une situation plus favorable du côté des plus défavorisés.
Merci beaucoup Thierry Lang et Thibaut de Saint-Paul donc, pour ce décryptage de cette enquête sur les inégalités sociales et la santé. Et Axel, bien sûr, la une de la science, toujours.
En podcast, tous les jours, 10 minutes en plus du dossier. On se retrouve demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, selon l'Institut de géologie chinois, le séisme du mois d'avril au Népal a déplacé le mont Everest, alors que la montagne se déplace continuellement vers le nord-est. Le tremblement de terre lui a fait faire un petit bond de 3 cm dans la direction opposée. L'étude montre également que la capitale Katmandou a glissé de plus d'1,50 m vers le sud en se soulevant de près d'1 mètre. Ce qui a commencé comme une blague entre un physicien et sa femme biologiste est en passe de devenir une découverte scientifique pour le moins intrigante. Un couple de chercheurs américains révèlent dans une étude une corrélation forte entre les cycles du soleil et l'apparition de 2 maladies auto-immunes, la polyarthrite rhumatoïde et la maladie de Horton. En utilisant 60 ans de données solaires et médicales, ils ont réussi à montrer que non seulement les deux phénomènes arrivaient en même temps, mais qu'en plus les régions les plus exposées au soleil étaient également les plus exposées à la maladie. Et puis pour terminer, un clin d'œil à nos amis québécois, des félicitations au professeur Dominique Berthaud qui vient de recevoir le prix Hubert Reeves pour son ouvrage « Changement climatique et biodiversité du Québec ». Décrivant les climats de la région, ce livre est le fruit de 5 années de recherche à laquelle ont participé des milliers de naturalistes, un ouvrage publié aux éditions Presse de l'Université du Québec.